Radio Campus 88.3. Fait chier.
Tu te sens seul le troisième mardi du mois, de 20h à 21h? Moi aussi. Alors rejoins-moi pour faire des LGBTs sur Radio Campus Angers. Culture queer, anecdotes, philo, art. La soirée s'annonce haute en couleurs sur LGBTs.
Bonsoir, bienvenue à tous sur LGBTs. Il est 20h et on se retrouve pour une heure de commérage intensif et historique. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que ça veut dire être queer, après quoi nous aurons une discussion autour du livre « Les pédales et leurs amis entre les révolutions » de Larry Mitchell. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la notion de communauté et on verra des exemples historiques à ce sujet. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même commencer par me présenter, ça me paraît un peu plus agréable. Je m'appelle Charlie et je suis étudiant aux Beaux-Arts à Angers depuis maintenant 4 ans et je suis un jeune homme trans. Ça fait quelques années que je suis passionné d'histoire et de philo, d'art et de culture queer. Ce sont des thématiques qui m'intéressent vraiment, je base mon travail artistique et mes recherches dessus. Et ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous et de monopoliser la parole un petit peu pour parler de ça. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Nouille, qui est mon amie.
Bonsoir.
Comment vas-tu, Nouille ?
Bah écoute, ça va super. Je suis ravie d'être là, ravie de parler dans un micro, d'être dans un studio. C'est super.
C'est super. Alors, je vais faire semblant de ne pas savoir qui tu es. Dis-moi, Nouille, qui es-tu ?
Déjà, je suis ton pote, donc...
Voilà. C'est un bon début.
Non, je suis étudiant aux Beaux-Arts comme Charlie, en troisième année comme Charlie.
Redoublement.
Ouais. Je suis aussi une personne trans et non-binaire. Ouais, et c'est aussi pour ça que tu m'as invité.
Tout à fait. Et je tiens à préciser que le nom de l'émission vient d'une blague de Nouille LGBTs. On peut, je pense, l'applaudir un petit peu pour cette super blague. Donc voilà, c'est super impressionnant de se retrouver là dans un studio. Alors, m'en voulez pas si je bégaye, c'est la première fois. Et donc voilà, ça fait quelques années que j'y pense et je suis ravie d'être là. Donc, pour vous donner un petit contexte pour cette émission, j'aimerais quand même mettre un peu quelques bases, quelques points sur les « i ». J'aimerais mettre en avant la culture queer d'un point de vue interne à la chose, vu que c'est un sujet sur lequel la parole s'est libérée à une vitesse complètement folle ces dernières années, depuis MeToo principalement, et on peut voir que c'est devenu un super débat public, n'est-ce pas ? Les informations qui circulent sur nos existences ne sont pas du tout écrites ou au fait faites par des personnes concernées, ce qui crée un gros bourbier, une sorte de gros décalage de gens qui comprennent rien à ce mode de vie, qui ont jamais adressé la parole à une personne queer de leur vie entière. Et c'est tout simplement une super opportunité pour mettre en avant le discours des personnes concernées. Je m'appuie sur la théorie queer, féministe, décoloniale, anticapitaliste. On va pas faire tout un tableau. Ici, c'est l'ultra-gauche et la convergence des luttes. Et j'ai conscience que la culture queer peut paraître vachement inatteignable. Moi-même, j'ai eu du mal au début. Il y a des notions qui sont quand même assez intenses et il y a beaucoup de réflexions, de choses qui sont passées par là. Donc c'est une culture à part entière qui est très complexe, qui a son langage, ses codes, ses rituels, ses espaces, tout comme toute une autre culture finalement. Donc voilà. On est parti.
C'est parti.
Ça veut dire quoi être queer, Nouille ?
Pour moi, être queer, c'est un terme parapluie qui désigne toutes les personnes dans la communauté LGBT. En fait, Tu peux être gay, être queer, être trans, être queer. C'est vraiment un terme parapluie, en fait. C'est la même chose que LGBT.
Tout à fait.
Ouais.
Et tu sais d'où vient le terme queer? Est-ce que tu connais ses origines?
Je crois qu'à la base, c'est une insulte.
Tout à fait. Bah, de base, même dans la communauté elle-même, c'était utilisé comme une insulte pour les gens qui n'étaient pas forcément dans les codes de la queerness. Et du coup, ça a été quelque chose qui a été vraiment retourné. Un peu comme on peut voir pour plein de minorités, en fait, un retournement de stigmate, on appelle ça. Et donc, de base, c'était une insulte qui voulait dire tordu, anormal, bizarre, folle, fric, toutes les déclinaisons, en fait, de cette signification. Et donc, ça a été réapproprié par les personnes qui se faisaient insulter comme ça. Et donc, être queer, ça va quand même... je pense qu'on peut se mettre d'accord sur cette définition, que ça va au-delà de l'identité de soi, que c'est un statement, comme on dit, un positionnement politique directement contre les normes en place. Et donc c'est un mode de vie qui est fondé sur le refus des normes sociales, du patriarcat, de l'hétérosexualité normative et sur l'anticolonialisme, l'anticapitalisme et l'antifascisme, ce qui me paraît un peu aller de soi. Se mettre contre les normes sociales et réfléchir à des moyens alternatifs de vivre, communiquer, aimer, consommer. Et c'est quand même une notion dans laquelle la notion de communauté est tout à fait centrale.
Exactement.
Oui. Dis-moi, Anouilh, est-ce que tu veux bien définir qu'est-ce que c'est l'hétérosis patriarcat?
Oh là là.
Oh là là.
Le gros morceau.
Les problèmes.
Les problèmes, attention. Je vais essayer, ouais. C'est patriarcat, cis, hétéro. En gros, c'est ça, non? Enfin, je... Non, c'est genre, tu vois, les hommes et tout, à un moment, ils ont fait, ouais, et tout, machin, nous, on est les plus forts, t'as vu? Du coup, ils étaient en mode, ouais, bon, les femmes et les PD, bof, tu vois. Et après, ils ont fait... Les trans non plus, en fait.
Surtout pas les trans, hein, voilà. Attention.
Et après, ils étaient en mode, ouais, machin, nous, on est au gouvernement, et... Bim. Et voilà, et depuis, c'est pas fou. Et voilà.
C'est un excellent résumé, merci.
De rien, de rien.
Et donc, oui, que penses-tu de la straight pride?
Eh ben, je savais même pas que ça existait avant que tu m'en parles.
Ouais, ça existe.
Mais pour aller où?
Il y a des gens qui pensent que être hétérosexuel aujourd'hui, tu vis des discriminations suite à ton hétérosexualité. Ce sont des gens qui existent.
Mais bien sûr.
Mais tout à fait.
Tout à fait. Enfin, je veux dire, dans la rue, tout le temps, moi, je suis là, un papa, une maman. Enfin, non, c'est pas possible. Pas devant mes enfants, pas à l'école. Pas... Oh, et puis ils sont trop jeunes pour savoir, tu sais, les... Voilà.
On peut pas mettre sous les yeux des images d'un papa et d'une maman qui font des enfants. Je veux dire, c'est tout à fait inacceptable.
Voilà. On entend ça partout, à la télé, sur les réseaux sociaux, dans les campagnes. C'est terrible.
Ils sont partout. Ouais. Ils sont partout.
Non, mais les pauvres.
Non, mais ça doit être dur.
Ça doit être très dur.
Et donc, en parlant de famille, justement, une des principales notions sur lesquelles se base quand même la théorie queer, c'est la notion de famille et surtout comment échapper à la structure de la famille nucléaire. La famille nucléaire, c'est quoi? C'est le modèle de la famille prôné en France, par exemple par la Manif pour tous, qu'on connaît malheureusement assez bien. Donc c'est typiquement un papa, une maman et des enfants biologiques. C'est tout ce qui sort en fait de ce cadre dans la société est considéré anormal et plus ou moins combattu. Et le problème, c'est pas que pour les queers, en fait, c'est pas que ces familles-là existent, c'est que juste tout ce qui n'est pas ça est juste pas possible et anormal. Et par exemple, il y a un texte que je trouve magnifique d'une autrice qui s'appelle Sarah Ahmed, qui est chercheuse et philosophe, qui est pakistano-anglaise et qui enseigne, il me semble, en Australie, qui est vraiment une figure centrale de la théorie queer, qui du coup a publié un texte en 2020 qui s'appelle « Vandalisme queer ». Alors déjà, le titre, je le trouve superbe, Slay, 100%. Mmh. Et justement, elle aborde le sujet de la famille, où elle dit « Lorsque nous réveillons les potentiels d'une matière, lorsque nous refusons d'utiliser les choses de la bonne manière, il y a de fortes chances pour que nos actions soient considérées non seulement comme des dégradations, mais encore comme des dégradations intentionnelles. L'usage queer des choses, leur usage oblique ou détourné, peut ainsi être interprété comme une sorte de vandalisme, une destruction volontaire du vénérable et du beau. » Et donc, elle continue en parlant de la famille nucléaire, où elle dit « La famille nucléaire est parfois considérée comme une source de respectabilité et de beauté. Je parle de la manière dont l'image de la famille est maintenue par une activité permanente de polissage. Au sein de la famille, un important travail de maintien des apparences et des sourires forcés s'emploie à masquer tout ce qui ne correspond pas à l'image du bonheur. Ce travail de polissage s'assimile à un dispositif d'hétéro-redressement. En cherchant à polir l'image de la famille, en cherchant à éliminer les taches et les aspérités, on élimine parfois du même coup les traces des existences queer. Quand nos désirs sont interprétés comme dommageables à la famille, il n'y a qu'un pas à faire pour en faire des actes de défiance, comme si nous étions activement à la recherche de stratégies pour gâcher la belle image de la famille, ou comme si notre intention était de rabaisser les valeurs familiales en n'y adhérant pas. Ne pas s'aligner sur la famille revient ainsi à vouloir la briser. Sous prétexte qu'elle ne suive pas les pointillés des lignes familiales, on en vient à penser que les queers veulent tailler la famille en pièces. Ne pas s'aligner revient à détruire. Voilà la formule qui interprète les existences queer comme vandales.
Et il est super, le mot hétéro-redressement.
Ouais.
Il est incroyable.
Il est vachement percutant.
Ouais, très imagé.
Ouais, je suis très d'accord. Et du coup, pour une fois, là, je trouve qu'on touche à un point où les hétéros, pour une fois, ont bien compris ce que les queers voulaient, c'est effectivement sortir des normes. Sauf que, on n'a rien à faire.
On n'a pas envie de se faire hétéro-redresser, en fait.
Exactement.
Arrêter de nous hétéro-redresser.
Exactement. Et voilà, si les queers, ils se mettent en opposition avec ces normes-là, c'est aussi parce qu'en fait, on n'a pas le choix.
On n'a pas le choix, non.
On n'a vraiment pas le choix. C'est pour se sentir en sécurité, pour pouvoir être soi-même. C'est un grand travail, déjà, de déconstruction de toutes les normes qui existent autour de nous. Et donc, on nous impose une place de vandale. Alors, au bout d'un moment, il y en a pas mal qui choisissent de l'incarner, de pousser le truc au bout, ce qui est une réaction tout à fait normale. Et donc, cette position de vandale, Sarah Ahmed, elle nous propose de se l'approprier. Elle dit un peu, en quelque sorte, dans tout son texte, que vous me prenez pour une déglingosse, écoute, je vais être une déglingosse comme je le sens jusqu'au bout. Et puis, au moins, je me ferai harceler pour ce que je suis vraiment, quoi. Donc, c'est pas un choix de vie facile.
Oui.
C'est pas un choix de vie facile.
Mais c'est vrai que souvent, on voit des personnes queer reprendre des codes de diabolisation, entre guillemets, même par rapport, je pense à Lil Nas X, qui a fait son clip Call Me By Your Name, qui a... Les gens ont pété un plomb parce qu'en fait, dans ce clip, il twerk sur Satan, je crois, c'est ça.
Je crois qu'il fait de la pole dance.
Ouais, c'est ça. Dans les enfers.
Il prend la pole dance, il descend jusqu'aux enfers. J'ai beaucoup vu ce clip.
Voilà, incroyable. Et cette imagerie-là, en fait, de diabolisation, voilà, de monstre, de freak et tout, on se l'approprie aussi comme une force, en fait.
Clairement.
C'est chouette.
C'est très beau.
Et c'est rigolo aussi.
C'est super marrant
de se déguiser. De twerker sur Satan. Enfin, je veux dire, bravo.
Bravo, Satan. Oui.
Oula, peut-être pas en fait, non.
On rigole, c'est une blague.
Coupé.
Donc voilà. Et donc, dans ce fameux texte, Sarah Ahmed parle encore d'alliance queer ou de famille queer. Donc là, on va aborder le petit sujet de la communauté. Donc, historiquement, les queers, ils ont été discriminés, voire même criminalisés selon les lieux et les époques. Et encore aujourd'hui, ça arrive beaucoup. Les gens sont virés de leur famille, c'est impossible d'avoir un travail dit classique. Donc, il y a une pression économique réelle qui existe, vraiment. Et les gens sont obligés de se replier sur des stratégies que Sarah Ahmed qualifie de obliques. Donc, les queers, avant toute forme de libération des mœurs, voire avant même que le tabou total du sujet ne soit rompu. Ils étaient repoussés dans les bas-fonds de la société, c'était eux les malfrats, les gangsters, les pirates, les travailleuses du sexe, et toutes ces personnes en fait qui vivent dans des économies criminelles généralement. Les personnes queer en faisaient partie pendant très longtemps. On peut voir par exemple, il y a la littérature de Jean Genet qui vraiment témoigne d'un pan comme ça de l'histoire. Et c'est très récent en fait que la libération sexuelle et les tabous qui ont commencé à être brisés, que c'est un sujet maintenant qui est connu de tous. Et alors qu'avant c'était vraiment pas envisageable comme discussion à avoir, même aujourd'hui à la radio, c'était pas possible quoi. Et donc le piège de nos jours aussi, c'est comme pour toutes les luttes pour les personnes minorisées, c'est de se dire bon bah comme dans la loi techniquement bon bah, c'est réglé, bah ça veut dire que c'est la fin des discriminations, alors que
c'est le début.
Vraiment, vraiment on touche à des choses qui sont tellement intégrées dans les mœurs et dans les sociétés depuis tellement longtemps que c'est très très dur de s'en défaire. Et aujourd'hui encore, hein, selon les statistiques de SOS Homophobie, qui sort un rapport très complet, alors j'ai vraiment regardé le truc, il y a une centaine de pages, c'est vraiment très complet. Tous les ans, ils sortent donc ce rapport-là. Et encore aujourd'hui, du coup, 43% des discriminations subies par les personnes LGBT concernent un refus à l'emploi. Sur le petit graphique camembert, c'est la plus grosse part en fait des discriminations et la pression économique. Dans un monde capitaliste comme le nôtre, c'est quand même une pression qui est gigantesque. Et donc, quand tu vas sur le site aussi de SES Homophobie, tu vois qu'en gros, y a des statistiques qui sont faites avec les pages les plus consultées. Et je trouve ça absolument fou et hyper révélateur que les problèmes de fond... par exemple, il y a une rubrique qui s'appelle « J'ai besoin d'aide ». Et les pages les plus... Les plus consultées, merci. Sont les pages qui parlent de harcèlement, de menaces et d'agressions. Donc c'est quand même des choses assez difficiles. Et la rubrique Je me questionne, c'est à 90%, la page la plus consultée, c'est Je me questionne sur mes droits en tant qu'individu.
Oula.
Si 90% des personnes qui consultent cette page se posent des questions sur leurs droits, c'est quand même assez révélateur, non?
Oui, et en même temps, ça ne m'étonne pas. J'ai envie de dire, c'est vrai que quand on est une personne minorisée, des fois on a peur de perdre ses droits, en fait, à chaque changement politique, à chaque prise de pouvoir, enfin c'est... C'est pas des droits qui sont acquis, on n'est pas à l'aise. On n'est pas on n'est pas assis sur nos droits de manière à l'aise en fait. On peut constamment ils peuvent constamment être remis en question.
C'est clair. Bah justement, il y a une citation de Simone de Beauvoir que je trouve très très à même de répondre à ce qu'on est en train de dire, et donc pour le coup ça concerne le droit des femmes, mais elle dit: n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante toute votre vie durant. Et je pense que ça s'applique 100% aux queers qui sont encore, je pense, un autre cas que le cas des droits des femmes. Mais c'est un peu, on peut voir ça un peu comme un effet domino. C'est des choses qui sont quand même assez liées. Et on peut voir aujourd'hui en plus qu'il y a une forme de backlash. Le backlash, c'est quand il y a une acquisition de droits assez soudaine, une libération de parole très rapide, et que du coup il y a des choses qui sont visibles, qui n'étaient pas visibles avant. Et d'un coup, le grand public, il se rend compte de plein de choses, donc tout le monde panique, et il y a la montée du fascisme, de machin. C'est un peu ce qu'on est en train de voir en France... en Angleterre, partout, en fait, dans le monde occidental. Donc, c'est quand même vachement inquiétant. Et donc, c'est quand même pour ces raisons-là que les queers se retrouvent ensemble en communauté. C'est pour se protéger de ces choses-là, pour être dans des lieux où ils peuvent être eux-mêmes, où on peut se retrouver dans les bars queer, dans les drags shows, dans nos maisons, tout simplement, dans nos espaces de vie. Et Noé, est-ce que tu as des petites anecdotes sur des communautés que tu connais ou même dans ta vie de tous les jours?
Je vois pas du tout où tu veux en venir.
C'est pas comme si tu faisais tes lessives chez moi. Enfin, genre...
Toutes les semaines. Mais oui, bah en fait, moi c'est en faisant des études d'art que bah, j'ai rencontré beaucoup de personnes queer, que j'ai commencé à justement traîner avec plus de personnes queer, etc. Et ça m'a fait vraiment du bien. Et j'ai vraiment eu ce sens-là de communauté parce que, bah, t'as pas à, en tant que personne trans, t'as pas à t'expliquer tout le temps. T'as pas ces regards-là, ces problèmes de « Ah, déjà, je m'appelle Nouille. Vas-y, dans la vie de tous les jours, c'est pas facile. » Moi, j'aime bien avoir... Et pourtant, je l'ai choisi, bref. Bref.
C'est une autre discussion.
Un autre sujet. Mais déjà, c'est bien de pouvoir juste dire « Bonjour, je m'appelle Nouille, mes pronoms, c'est machin, ta ta ta. » Et pas avoir une réaction « Ah, mais pourquoi Ah, mais tu veux m'en parler pendant une heure ?» Non. Non.
Je suis là pour faire la fête.
Vraiment,
en fait,
par exemple.
J'ai 3 bières dans mon sac. Donc, voilà.
Voilà, c'est ça. Et en fait... des fois quand j'en parle à mes parents, parce que mes parents ils voient très bien avec qui je traîne et tout, ils ont capté que tous mes potes sont queer, ils sont là, ils me regardent, ils font alors lui c'est il, elle, je suis perdue. Et ils m'ont dit mais t'as pas peur d'être dans une bulle? Et je suis en mode bah non, en fait c'est pas une bulle, c'est tu peux, si j'étais dans une bulle ça voudrait dire que je vis pas quand même des violences au quotidien ou des rappels à la réalité, c'est-à-dire que ce soit quand je marche dans la rue, ou quand je travaille, quand je rencontre des inconnus, quand je vais voir ma famille, enfin, t'échappes pas en fait à ces rappels à la réalité entre autres, et justement j'ai besoin de cette entre guillemets bulle, juste pour exister,
et, avec d'autres en fait.
Ouais, et puis me sentir à l'aise et en fait rendre l'existence plus douce. En général,
c'est...
vous rendez mon existence plus douce.
Oh, ça fait plaisir. Et donc, bah, par exemple, je sais que je sors un petit peu mes petites lunettes de nerd, voilà. Y a plein de communautés aussi historiquement qui ont existé, et donc des communautés plus ou moins hardcore, comme on pourrait dire, mais des communautés artistiques, queer... basé sur on fait pousser nos légumes, on vit un peu à l'écart de la société. Et je pense par exemple aux coquettes, c'était une communauté qui a existé quand même pendant très longtemps pour ce genre de communauté, de à peu près 1960 jusqu'à 70, donc une dizaine d'années, où en fait c'était une communauté de l'organisation de la libération gay, comme on disait à l'époque, de performance, théâtre, psychédélique, donc ça y allait sur tous les points, je vous laisse imaginer. Et donc c'était une communauté qui vivait ensemble, qui avait des circuits en fait entre d'autres aussi communautés, qui organisaient énormément d'événements artistiques, théâtrales, des spectacles, qui faisaient vivre leur quartier, donc quelque chose de très beau quand même à voir. Je recommande, il y a un super reportage sur YouTube sur les coquettes. Et puis, pour la notion de famille, en fait, dans les communautés queer, on a l'exemple ultime, je pense, du modèle un peu de la famille en communauté, avec la scène ballroom, évidemment.
Oui.
C'est surtout présent donc, aux États-Unis, de base. Mm. C'est là que ça a émergé. Oups. ça a émergé aux États-Unis, avec des personnes queer racisées, qui vivent ensemble et organisent leur vie, qui ont leur propre lieu culturel, leur système communautaire d'entraide et un peu des moyens d'avoir des familles alternatives pour, principalement donc, des personnes noires et latino queer qui, en fait, ont besoin d'un safe space, d'un endroit où ils se sentent en sécurité. Et il y a tout un langage aussi qui est propre à ces communautés-là, avec les maisons qui sont dirigés par les mères, les pères, il y a les enfants. Donc on peut voir vraiment ce besoin en fait de se retrouver en famille.
Bah c'est ça, en plus c'était des personnes qui souvent étaient virées de leur famille ou de leur foyer quand leurs parents apprenaient qu'elles étaient gays ou trans, etc. Et qui se faisaient en fait récupérer, prendre sous l'aile d'une personne plus âgée queer, qui ensuite les emmenait dans des soirées, donc les ballrooms, où en fait ils recréaient un espace où ils pouvaient se sentir importants. Ils créaient des compétitions avec différentes catégories qui imitaient des
codes sociaux.
Ouais, c'est ça. Ça, des codes sociaux et puis des codes de pouvoir aussi qui étaient associés à l'époque que à des personnes blanches et ou hétéros.
Ouais.
Et par exemple, t'avais Executive Realness où ils s'habillaient en riche homme d'affaires. Et il fallait faire le catwalk et marcher et défiler en riche homme d'affaires. Et c'était la personne qui avait l'air le plus réel, qui pouvait être le... Vraiment, tu la vois dans la rue, tu te dis, oui, d'accord, tu es un riche homme d'affaires qui gagnait après le trophée.
Oui, et pour ce sujet-là, je pense que dans une autre émission, on en parlera plus en profondeur. Mais il y a beaucoup de house qui sont quand même très connus. House of Extravaganza, la Ninja House, toutes les maisons, il y a une très grosse communauté autour de ça. Il y a aussi la culture ballroom qui a été représentée il n'y a pas longtemps en France sur la saison 2 de Drag Race. Mais et Kayona, on n'en parle pas beaucoup de la scène ballroom française. Et voilà. Voilà, voilà. Et donc, on peut enchaîner sur une petite pause musicale un peu engagée, quand même envie de rappeler qu'en ce moment, il faut donner son soutien à la Palestine, aux Palestiniens et aux Palestiniennes, et aussi aux queers qui y vivent, parce que ces gens-là existent. Je voulais vous lire, avant de passer, une musique qui s'appelle Mashkara, de Bachar Murad, qui était quand même définie comme la Lady Gaga palestinienne.
Ah, carrément.
Ouais, ouais, okay. Ouais. J'ai découvert ça, du coup, en écrivant cette super émission. Et il y a une application que je recommande vivement, qui s'appelle Queering the Map. On peut voir, en fait... des témoignages de personnes sur la carte, en fait. Et il y a des témoignages qui sont vraiment bouleversants de ces derniers temps. Donc, je voulais vous en lire un avant d'écouter cette chanson. Donc, j'ai traduit comme j'ai pu. Donc, c'est « Je ne sais pas combien de temps je vais vivre et je veux que ce témoignage soit mon épitaphe. Je ne vais pas quitter ma maison, qu'advienne ce qu'adviendra. Mon plus grand regret est de ne pas avoir embrassé cet homme. Il est mort il y a 2 jours. Nous nous sommes avoué nos sentiments et j'étais trop timide pour l'embrasser la dernière fois. Il est mort pendant le bombardement. Je pense qu'une grosse partie de moi-même est morte aussi ce jour-là. Bientôt, je serai mort aussi. À Younus, je t'embrasserai au paradis. »
في كتاب
Alors, on va parler de... C'est un super bouquin que j'adore, qui s'appelle Fagots and Their Friends Between Revolutions. Donc, en français, Les pédales et leurs amis entre les révolutions. Juste ce titre.
C'est magnifique.
C'est magnifique. Donc, le texte a été publié en 1977 et il a été écrit par Larry Mitchell et illustré par Ned Asta. Donc, c'est un bouquin pas trop long, ça se lit bien, c'est sous la forme d'un conte. Et à l'origine, c'était un projet de Larry Mitchell, que ce soit un livre pour enfants.
Et c'est qui Larry Mitchell, en fait?
Alors, c'est un type, c'est un type qui est américain. Évidemment, ouais. Américain, parce qu'il est américain.
Non, mais c'est très bien pour lui.
Good for him, pourquoi pas. Et en fait, c'est un militant de la Gay Liberation Front des années 70. Et c'est une figure incontournable de la lutte gay, ainsi que du mouvement Back to Land, donc retour à la Terre, vraiment un peu Babos Land, quoi. Une grosse figure de ces mouvements-là. Il a été prof de sociologie au Richmond College, donc apparemment, et c'est lui-même qui le raconte, hein, ils l'ont lancé pour regrouper tous les radicaux, les freaks, les drogués, les féministes et les militantes, et pour pouvoir dire, nous avons créé un département rien que pour vous, voilà, faites ce que vous voulez. Donc lui, à partir de ce moment-là, il s'est dit, bon bah, je suis pédé, il y a plein de pédés autour de moi, on est super pédé, c'est
moi.
Super. Vraiment. Et venez, on organise des choses, on fait des trucs. Et du coup, il a organisé plein de cours donc aux États-Unis sur le socialisme. Hein, les États-Unis et le socialisme, c'est pas une grosse histoire d'amour. On va pas...
Il est brave.
Il est très brave, le type. Et donc, il a organisé des cours collectifs sur le socialisme, le féminisme, l'oppression des gays, des lesbiennes et de leur libération. Il invite plein de militants et de militantes à intervenir, ce qui est super. Et donc, il commence par faire des expériences de communauté où ils vont d'abord vivre dans une maison avec... j'ai pas trop compris de ce que j'ai vu, mais je crois des gens de la fac. Donc, ils vont écrire un premier bouquin ensemble sur ces expériences-là. Et en fait, plus tard, il va rejoindre le mouvement Back to Land, donc retour à la Terre, pour sortir du système et vivre en communauté avec des idéologies clairement hippies, quoi. Et donc, Larry et ses potes, ils achètent un terrain un peu loin, à la campagne, en Ithaca, et ils commencent une vie en communauté sur une colline qu'ils vont ensuite appeler Lavender Hill. C'est très mignon.
C'est très mignon.
C'est très mignon. Voilà. Et donc, le bouquin, je le dirai pas à des enfants, quand même, parce que c'est très... c'est quand même très sexuel. Hein. Voilà, c'est les années 70. Ça rigole pas avec le sexe. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le bouquin, il est écrit dans un contexte qui est quand même hyper important. C'est un peu l'explosion totale pour les queers, tu vois ou pas ce qui s'est passé à Stonewall?
Vite fait, ouais, à peu près, ouais, j'en ai entendu parler, ouais.
T'en as entendu parler?
Ouais.
Tu veux m'en parler un peu?
Juste la révolution, non, juste... En gros, c'est des manifestations qui sont passées suite à des arrestations dans un bar gay.
Ouais.
Aux États-Unis, en fait, qui ont lancé vraiment un mouvement pour les droits queer et LGBT dans le monde entier.
En gros, c'est ça.
Ouais.
Et c'est de là que vient la Pride, en fait.
Ouais.
C'est pour ça que, en fait, les événements de Stonewall, ça s'est passé au Stonewall Inn, qui est le nom du bar.
Oui, c'est ça.
Voilà.
J'étais pas sûre.
Et en fait, c'est des émeutes super violentes dans lesquelles, en gros, comme à l'époque, c'était illégal d'être pédé. En fait, il y avait des bars gays, et en fait, ces bars gays, ils étaient tenus par la mafia, parce que du coup, c'était illégal. Donc, la mafia, elle se faisait des petits sous. Et il y avait souvent des raids de police dans ces lieux-là, qui sont hyper violents. Il y a plein de témoignages d'époque, j'oserais même pas les lire là, tellement c'est brutal ce que la police fait.
Je m'en passerai, merci.
Voilà, on s'en passera.
Super.
Et donc, en gros, c'est... Les queens, comme on disait à l'époque. Donc aujourd'hui, avec les termes qui ont évolué. On ne saurait pas si ce sont des drag queens ou des femmes trans ou les deux, certainement oui. Les deux. Mais en gros, c'est elles qui ont décidé, bah, en fait, il y en a ras le cul. Pardon, ras-le-bol, on va se tape, en fait, avec les flics, et ça a eu lieu, du coup, des affrontements très violents, donc dans les nuits du 28 juin au 3 juillet 1969. Donc du coup, le fameux bouquin Faggots and Their Friends vient, en fait, après ces événements-là, qui ont profondément marqué, en fait, et changé tout le discours public sur la question, où ça a ensuite ouvert la discussion. Mm. Voilà. Oui, oui. Tout à fait.
Super.
Tout à fait. Donc, et oui, dans ces événements, il y a des figures hyper importantes comme Marsha Johnson, qui a fait partie de ces femmes qui se sont battues, femmes trans, racisées, travailleuses du sexe, par exemple, qui s'est battue, qui a littéralement tapé du flic. Donc, bravo.
Ah bon ?
Oui, oui. Oui, oui, c'était des affrontements. Ils étaient là, quoi.
Genre Martha, en mode la meuf avec le chapeau fleur et tout, qui a l'air toute mimi. Ouais. Elle a... Oh, waouh, ok.
Ouais, ouais, les drag queens, elles rigolent pas. Les
Pétard.
Queens.
Oui, je vous invite à regarder à quoi elle ressemble si vous savez pas, mais elle a vraiment l'air, mais toute mimi, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Une petite madame.
Elles avaient bien raison de se révolter.
Oui, elles avaient bien raison.
Elles avaient bien raison. Ouais. Et merci à elles, parce que grâce à elles, bah, aujourd'hui, on peut être là.
Aujourd'hui, on a des droits.
Aujourd'hui, on a des droits. C'est plutôt stylé. Et donc, du coup, pour le bouquin, donc l'histoire, elle se passe dans... Alors, c'est très drôle parce que c'est vraiment écrit sous forme de conte, mais quand même pour adultes, je dirais. Mmh. Et ça se passe au royaume de Férule. C'est un royaume où les hommes et les pédales et leurs amis, ils sont toujours pas libres.
Férule.
Je vais canner. Férule. Et Férule, évidemment, pourquoi ?
Oh, c'est sale.
C'est parce que les hommes sont à la tête, en fait, de cette société. Et c'est très marrant parce que, en fait, il y a tous les statues de toutes les personnes queer qui sont un peu dressées dans des gros clichés. Et c'est très marrant de voir que ça a toujours été quelque chose de très présent dans la communauté, un peu de mettre dans des catégories, dans des.
Oui.
Un peu des petites sous-parties, des centres d'intérêt, les personnes. Je trouve ça très intéressant à voir que c'était déjà le cas, en fait, à l'époque.
Mmh, c'est vrai.
Et donc, par exemple, on a plusieurs profils. On a donc les pédales qui, en plus, dans l'époque, ce ne sont pas des hommes. Ce sont des L, déjà. Les pédales sont des L. Ce
sont genre féminins ?
Féminins, tout le temps.
Okay.
Ce ne sont pas des hommes. Et il y a plusieurs... voilà. Par exemple, dans le bouquin, ils disent « Autrefois, les pédales s'appelaient les hommes qui aiment les hommes ». Puis elles ont compris qu'elles n'aimaient pas les hommes, elles n'aimaient que les hommes qui aiment les hommes, ce qui ne fait pas beaucoup d'hommes. Donc les pédales sont tout simplement des pédales, il n'y a pas besoin de...
C'est à part.
C'est une espèce à part. Et je trouve ça vraiment super.
Le troisième genre.
Le troisième genre, pédale. et donc les pédales sont très insouciantes, elles vivent de beauté, d'harmonie et de paix, et ce sont des états que, je cite, les hommes ne connaissent pas. Donc...
Elle a oup.
Ça tire à mal réel.
Ah, ça tire à mal très réel.
Oui, vraiment.
C'est pas faux.
C'est vraiment pas faux. Et en fait, leur seule volonté, c'est d'être libre. Et ensuite, on a par exemple les femmes fortes, qui sont les précieuses informatrices, un peu les espionnes pour les pédales, qui leur racontent vraiment à quel stade les hommes de leur un peu manie, volonté de pouvoir, impérialisme et tout, est-ce qu'ils en sont, qu'elles sont là et elles font les espionnes, quoi.
Bravo.
Et c'est elle qui, où que les pédales s'installent, elles cherchent la proximité des femmes, et les femmes apprennent la magie et la sagesse aux pédales. Je trouve ça très beau.
Ah oui.
C'est très très beau.
J'aime beaucoup la métaphore, la...
Ouais.
Ouais, la métaphore, on va rester là-dessus, la métaphore.
La super métaphore. Oui. On a aussi du coup les fées, donc les fameuses personnes qui vivent au Lavender Hill, la fameuse maison, la fameuse communauté... que Larry Mitchell dans laquelle il a vécu, en fait, tout simplement. Et donc les fées passent leur temps à s'occuper des plantes et prendre soin du jardin, faire l'amour dans les plantations, construire leur petite cabane, machin. Et elles offrent une échappatoire aux autres qui vivent dans la ville, dans un havre de paix. Puis on a les reines, les queens, qui sont, donc comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui les termes ont vachement évolué, donc c'est certainement des femmes trans et ou des drag queens, qui sont des créatures, elles pour le coup, complètement opposées aux fées, qui vivent, qui sont des créatures de la ville et du béton. Quand tu vois, quand elles rencontrent, c'est super drôle d'ailleurs, quand elles rencontrent les fées, elles se disent mais oh là là, mais comment est-ce qu'on peut vivre avec autant d'arbres autour de soi? Et je trouve ça vraiment assez vrai.
Ouais, ça me rappelle vachement de gens.
Oui.
Tout ça. Tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, j'ai vraiment des personnes en tête.
Mais c'est fou, alors que c'est tellement vieux.
Bah ouais, c'est fou.
Ça a plus de 50 ans, quoi, le machin. Et donc, ouais, les queens sont vachement décrites et je trouve ça super drôle. Elles aiment provoquer les hommes, souvent par leur simple présence, et ça les amuse de les voir se mettre dans tous les états, dans tous leurs états. Elles ont un rôle aussi, qui est celui de commémorer le règne glorieux passé des femmes. Stylé.
Bravo.
Bravo à elles. Elles sont sans peur et elles pensent que le style est le chemin vers la singularité de soi et donc sur le chemin de la transcendance. Bravo.
Ben, bravo.
Vive le style. Vive le style. Et puis, on a, on a aussi une dernière catégorie qui sont les hommes tordus. Alors, ça, c'est très drôle parce que, pour le coup, c'est... Donc, dans la traduction, c'est les hommes tordus, mais de base, c'était les hommes queer. Et les hommes queer, dans le texte, donc on va dire les hommes tordus, ce sont les gens qui sont au placard, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas out, qui font semblant de ne pas être... de ne pas être queer, tout simplement. Et en fait, bah justement, aussi, on suit les difficultés de ces personnes-là dans le texte où on voit qu'ils galèrent à faire semblant de, d'aimer les femmes et de machin, et c'est pas facile. Et en fait, on pourrait carrément faire un tag yourself, quoi. Dire,
oui, vraiment.
Tu te reconnais plus dans quel... es-tu plus une fée, une reine, une pédale?
Pour de vrai, mais moi, je crois que je serais entre la queen et la fée. Genre un espèce d'hybride des deux en mode ouais la ville et tout gna gna gna, mais en même temps les fleurs je serais ouais et toi
mais je pense plus entre la pédale et la queen je pense un mélange des deux
ouais grave
et en même temps un peu la fée mais je sais pas faire de choix dans la vie donc je vais pas commencer à m'étaler parce qu'on n'en a pas fini sinon
toi t'es parisien là vas-y la campagne
N'importe quoi.
T'es grave une queen pédale, c'est bon.
Bref, tu me saoules. Ok, ça va. Hein. Et donc, du coup, à part ces catégories-là aussi, on a différentes maisons dans le livre. Et je trouve ça très intéressant de voir, en fait, juste comment toutes les maisons, elles se répondent l'une à l'autre aux besoins et aux nécessités de vie. Donc, voilà. Et donc, j'aimerais... quand même aussi partager une anecdote de ce bouquin avec toi. C'est la culture du gossip, du commérage. Comme quoi, et c'est un fait, c'est un cliché, mais c'est un cliché qui est vrai. Peux-tu me parler de la culture du commérage, Noé? Toi, le roi du gossip.
Alors, j'ai envie de te dire non, parce que moi, je gossip, je commère et tout, il n'y a pas de souci. Tu me connais, voilà, les petits secrets, les petits potins, nanana, nanana, voilà. Mais par contre, la culture du commérage, je sais que... Ah si, j'ai lu un truc qui disait que le commérage, genre le fait de commérer avec quelqu'un, c'était une manière de créer des liens et de créer des liens de communauté. Donc de... vraiment, en fait, c'est ta espèce d'hormone qui comment on dit ?
Sécrétée.
Ouais, donc qui se relâche quand tu commères, qui est la même hormone genre que tu relâches. En fait, c'est l'hormone de l'attachement.
Okay.
Et vraiment, genre commérer, ça, vraiment, c'est important et faut le faire.
Mais oui.
Et partager des potins, en fait, c'est vraiment une manière de créer du lien. Mais c'est réel.
Et puis, quand on dit commérage, évidemment, on ne dit pas commérage bête et méchant.
Non, mais...
Ça peut être discuter de choses... Oh, t'as vu, machin, ça n'a pas l'air d'aller.
Ouais, et puis c'est bon, tout le monde le fait.
Non, mais...
On va faire genre, c'est bon, tout le monde le fait.
Mais oui, il faut arrêter de faire semblant. Et donc, j'ai trouvé ça très drôle que dans ce bouquin, ça soit une assez grosse part du quotidien, les pédales de leurs amis.
Mais... Is it about me, en fait
It is in fact. It is the fucking play about us.
Vraiment, faut que tu me prêtes le livre.
Je vais le prêter. Je pense que c'est un livre qui est vraiment à lire.
Vous devriez tous le lire.
Lisez Les Pédales et leurs amis entre les révolutions.
Ça a l'air super,
s'il vous plaît.
C'est super,
s'il vous plaît. Super. Et donc, on peut finir sur une petite lecture de texte où il y a plein de petits paragraphes qui s'appellent Sagesse de femme. Et donc, ça commence. Les femmes fortes disent aux pédales qu'il fallait se rappeler de deux choses importantes au sujet des révolutions à venir. La première est que nous nous ferons botter le cul. La deuxième est que nous gagnerons. Les pédales connaissaient la première. Botter le cul des pédales est un sport traditionnel chez les hommes. Mais les pédales ne connaissent pas la seconde. Elles n'avaient jamais envisagé de gagner jusque-là. Elles ne savaient même pas ce que gagner voulait dire. Alors, elles ont interrogé les femmes fortes, et les femmes fortes leur ont dit que gagner était comme survivre, mais en mieux. En écoutant les femmes fortes expliquer ce qu'était gagner, les pédales ont d'abord été surprises, puis enthousiastes. Les pédales savaient ce que c'était la survie, c'était leur quotidien depuis toujours. Gagner serait tout bonnement mieux, et cela donnait un tout autre sens au bottage de cul. Se faire botter le cul, puis gagner, élevait toute l'entreprise révolutionnaire. Voilà, c'était très dense. Et puis maintenant, on peut se retrouver sur une petite discussion autour de la théorie du genre, peut-être.
Ah oui.
Oui.
Est-ce qu'on a le temps?
Est-ce qu'on a le temps? Oui,
oui,
on a le temps.
On a grave le temps. Ok, super. Bah oui.
Que penses-tu du genre, Nouille?
Alors,
quelle est ton opinion sur le genre?
Déjà, c'est un mot que je dis beaucoup trop dans mes phrases. C'est terrible.
Ouais, genre...
Ouais, vraiment, mais tous mes profs me le disent, voilà, c'est terrible. Non, plus sérieusement, c'est une question très vaste. Mais déjà, premier cliché à démonter, le genre n'a aucun rapport avec le sexe.
Tout à fait.
Voilà, ça, je pense que c'est la base de la théorie de genre. Qui est que le genre est une construction sociale et fait partie de l'identité sociale et indépendante de ton sexe de naissance, en fait.
C'est vrai que quand on n'est pas habitué à ce genre de discours, ça peut paraître vachement abstrait. Mais en fait, tout simplement, quand on est et qu'on dit « bon bah, parce que tu as ci ou ça entre les jambes, tu vas être une fille ou un garçon », les codes sociaux, en fait, derrière... À partir de ce moment-là, on ne va pas du tout être éduqué de la même manière, on ne va pas du tout être vu de la même manière, approché de la même manière, vivre les mêmes choses, pas du tout de la même manière. Et en fait, il y a une penseuse, une théoricienne qui s'appelle Judith Butler qui a défini ce concept en disant que le genre était une performance, ce que je trouve hyper, hyper percutant en fait, parce que ça veut dire qu'on va te dire « bon, bah, tu es une fille ». Parce que tu es une fille, tu dois agir de cette manière. Et donc, tu dois performer telle ou telle caractéristique pour être acceptée en tant que femme, par exemple. Ou en tant qu'homme, tu dois agir de telle ou telle manière pour être acceptée en tant qu'homme. C'est vraiment...
Même comme pour être perçue aussi en tant qu'homme ou femme. Parce qu'il y a ça aussi souvent quand, dans les débats et tout de théorie de genre, on me dit « mais... cette personne-là, si elle est née avec ce sexe-là, c'est que c'est un homme ou une femme. » Alors que si tu vois quelqu'un dans la rue, tu te dis, vas-y, cette personne-là, visuellement, c'est une femme. En mode cheveux longs, la robe, les nails, ce genre au féminin, etc.
Ouais.
Juste tu vois la personne de loin, tu te dis, ah oui, c'est une femme. Si ta vision de cette personne-là, elle change parce que t'apprends qu'elle a un pénis... Il y a une couille dans le pâté. Tu as vu une femme à la base. Tu as vu la représentation d'une femme. C'est une femme. C'est une femme, point. C'est aussi la perception de ton identité.
Clairement. Bah, comme tu dis, il y a un peu ce truc de... Il y a deux points qui sont quand même un peu importants et assez distincts et qui en même temps se rejoignent. Le truc de l'identité de genre et de l'expression de genre. Avec l'identité, c'est quelque chose qui est... La manière du ressenti, c'est l'expérience de chaque personne, de ce que c'est d'être femme, ce que c'est d'être homme, ce que c'est d'être ni l'un ni l'autre, les deux, autre chose, ce que tu veux en fait, finalement. Enfin, ça ne change rien à la personne que tu es, finalement. Tu restes une personne à part entière qui mérite d'exister comme les autres.
Exactement.
Oui. Et l'expression du genre, c'est plus la manière dont on exprime ouvertement. Son genre, ça peut être dans les comportements, donc vraiment la performativité de la chose, l'apparence, les choix vestimentaires, la coiffure, le maquillage, j'en sais rien. C'est comme un mec qui se maquille, ça veut pas pour autant dire que d'un coup ça devient une meuf.
Oui.
Donc il y a deux choses distinctes, c'est pas parce que quelqu'un, par exemple, typiquement, les personnes transmasculines, donc assignées femmes à la naissance, qui ne se reconnaissent pas sous cette identité-là, qui ont quand même une expression assez féminine, je pense qu'on s'entend sur la chose. C'est quelque chose qui est assez mal vu quand même, parce qu'on dit, bah, comment ça, t'es un mec trans et,
ouais.
et tu te maquilles, qu'est-ce que t'as pas compris? Ouais.
Alors qu'en fait, c'est juste la manière dont tu te définis qui est importante. Alors qu'en fait, c'est juste la manière dont tu te définis qui est importante. Si tu dis que t'es un mec, c'est tout point.
Ouais.
C'est pas compliqué aussi. La théorie de genre, faut pas se poser beaucoup de questions en général. Si quelqu'un te dit, ouais, je suis un homme, mes pronoms c'est ça, je suis une femme, mes pronoms c'est ça, tu te poses pas de questions, juste tu le fais et puis voilà.
Oui.
Ouais.
C'est juste une question de respect simple.
C'est pas si compliqué en vrai.
Et en fait, surtout, tu peux te poser des questions, mais si les gens se posent des questions, ouvrez un livre, lisez un article.
Aussi.
Et il y a tellement de ressources qui sont accessibles comme
nous.
Cette émission, par exemple. Mais ça tombe super bien.
Allez hop.
Allez hop, c'est plié. Et je voulais partager quelques petits exemples historiques aussi avec toi, Nouille, que j'ai trouvé et que je trouve un surtout qui me... Qui, j'arrête pas d'y penser.
Ok.
J'arrête pas d'y penser. C'est le truc où on dit, en ce moment, on entend vachement, c'est une mode, c'est nouveau, tout ça là.
C'est une phase.
C'est faux, ça a toujours existé. Et on a plein d'exemples, et c'est juste que ces exemples-là ne sont pas mis en lumière. On a l'exemple juste incroyable du chevalier démon. Tu connais l'histoire du chevalier démon?
Mais pas du tout.
Mais c'est, je te jure, c'est du grand n'importe quoi.
Mais,
c'est un délire.
Mais balance.
Alors, le chevalier démon, il est né. C'était Charles Geneviève Louis Auguste André Timothée Démon de Beaumont. Donc c'est très long, déjà pour commencer.
Miskine.
Non mais le pauvre, pauvre petite personne. Et donc c'est une personne qui a une influence énorme au XVIIIe siècle, qui est mort à 81 ans, donc c'est quand même assez vieux, voilà, et qui a tour de rôle dans sa vie, a joué un rôle de femme et d'homme dans la cour, en France comme à l'étranger en fait. Il y a eu des maris qui lui ont envoyé leurs femmes, des pères qui lui ont envoyé leurs filles. Il y a eu des hommes qui sont tombés complètement fous amoureux d'elle, de lui. On ne sait même plus comment, par quel bout prendre cette personne. Et en fait, on ne sait pas aujourd'hui avec nos termes aussi qui ont évolué. C'est très étrange d'en parler. Mais en gros, a commencé à être capitaine des dragons, donc une troupe militaire dans laquelle il a fait ses preuves de grand courage. Ses compagnons l'acceptent comme homme, même s'il a un petit peu l'air à côté de la plaque. C'est ce que les gens racontent, hein. Que toujours un peu un questionnement autour de quel est son genre, parce que même s'il est très brave et que ça taille des gens en pièces sur le champ de bataille, concrètement, il y a une sorte d'énigme. Il y a le capitaine des grenadiers, qui le prend pour une femme et qui veut absolument l'épouser. Il y a Beaumarchais qui écrit des lettres, mais t'aurais vu la gueule des lettres. Beaumarchais est complètement fou de...
T'as vu les lettres?
Ouais. Ah, c'est les lettres du XVIIIe siècle. Hein. Donc, okay. Voilà. Mais pour le XVIIIe siècle, très à fond
je vois.
Le sujet.
Oh là là.
Et donc nos petits chevaliers démons, qui est élevé comme une fille jusqu'à l'âge de 3 ans, qui entre à l'école militaire malgré ça, une fois devenu adulte, donc déjà ça commence bien. Et malgré sa figure qui est décrite comme féminine, il a été considéré comme le meilleur duelliste d'Europe à l'époque. Et donc il est introduit à la cour du roi, et le roi se dit, cette personne pourrait bien me servir comme espion. Donc il va chez Elisabeth II de Russie, et c'est sous l'identité de Lia de Beaumont qu'elle s'introduit dans le cercle des demoiselles d'honneur.
Mais cette personne est trop stylée.
Eh, c'est un truc de fou. Hein.
Mais par contre, je veux être cette personne.
18e siècle.
Mais le rêve, what?
Ouais, c'est pas fini. Hein. En plus de ça, donc une fois qu'elle intègre là, les demoiselles d'honneur et tout, et bah, en fait, cette personne réussit à avoir le meilleur traité de tous les temps. la paix de Paris, le traité entre la Grande-Bretagne, les States, les Écossais, machin, énorme diplomate, impact immense dans le monde. Et après ça, donc il y a plein de gens qui commencent à se poser des questions, il y a des rumeurs, savoir si c'est un homme, une femme, machin. Et Déon a toujours défendu sa qualité d'homme à l'épée. Ça veut dire que si quelqu'un disait « tu n'es pas un homme », eh ben on va se taper et je vais gagner le duel, donc tu vas perdre la vie.
J'en ai perdu mon latin.
Voilà. Mmh. Et donc, quand Louis XVI il accède au pouvoir, Déon il menace le roi de dévoiler des lettres en échange de beaucoup d'argent. Et pour en échange, donc, le roi le fait. Et Déon a le droit de quitter la société en tant que femme et de vivre... Enfin, en fait, il est contraint de vivre dans une abbaye par le roi avec des femmes. Et en fait, à sa mort... on découvre donc son corps, et là le médecin s'écrie, hurle, c'est un homme. Et je trouve ça fou.
Ouais. Oh waouh, oh le plot twist.
Ouais, alors que cette personne a été éduquée comme une fille jusqu'à ses 3 ans, puis après il y a eu l'école militaire, puis après il y a eu l'identité de Léa de Beaumont, puis
c'est fou. Ouais. C'est fou.
C'est magnifique, c'est très beau.
Ah, waouh, ouais. Elle est incroyable, cette histoire.
Ouais. Voilà, donc les personnes trans sont toujours existées, oui. Existeront toujours. On est là, on a toujours été là et on sera toujours là.
Voilà, tout simplement, c'est très important, je pense, de faire ce genre de rappel, surtout en ce moment.
Oui.
Voilà, nos identités, c'est pas des trucs qui datent d'hier. C'est pas juste... on n'a pas inventé ça sur place.
Voilà. Et donc,
c'était super
d'avoir cette discussion avec toi, Noul. Bah, j'étais très angoissée. Charlie. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je pense qu'en conclusion, on peut se dire, lire un petit mot. Un petit mot qui vient de les pédales et leurs amis entre les révolutions. Buvons en l'honneur des vieilles pédales qui étaient là et dont la simple présence a rendu tout possible.
C'est super.
Thank you.